Merci beaucoup à Laurent Gallois et à Daniel Cohn, comme on l'a souligné, pour leur confiance. Peut-être que cette confiance en ces affinités électives se confirme, puisqu'il y a un fil qui va de l'article de Jacques-Olivier Bégaud à l'article de Mildred Galland, qui est le fil de la forme, mais je crois qu'il y a un autre fil qui se confirme du premier article au troisième. C'est un autre fil qui circule, je crois, dans ce numéro, c'est celui de l'aura, terme qui revient à plusieurs reprises. D'ailleurs, je crois que vous le reprenez dans l'introduction à l'ouvrage, à partir aussi du texte de Daniel Cohn sur Warburg. L'esthétique en son caractère auroral. Et je crois que même si personnellement je n'ai pas cité ce terme, et je crois que si en plus sur les objets qui ont été les miens dans cet article, je crois qu'il y a quelque chose qui concerne là ce que j'ai tenté de faire autour de ce peintre et de ce compositeur. Morton Feldman pour le compositeur, faisant partie donc de ce qu'on appelle souvent l'école de New York et qui, sur le plan en tout cas de la composition musicale, réunit des artistes divers comme, bon, le plus connu étant John Cage. On trouve également des minimalistes comme Wolf ou Christian Wolf ou Early Brown. Et de l'autre côté, donc ce peintre emblématique de ce qu'on pourrait appeler très grossièrement et en simplifiant l'expressionnisme abstrait, mais également de cette école new-yorkaise. Et donc ce que j'ai essayé de faire autour de ces deux artistes, c'est aussi quelque chose, je crois, qui s'ancre dans ce problème de l'aura. Si je peux me permettre de revenir sur la genèse un petit peu personnelle de cet article et des raisons pour lesquelles j'ai essayé de faire quelque chose autour de cette relation. Je dirais que mon intérêt pour Rothko et ce que Feldman pouvait en dire s'est initié sans surprise au cours d'une exposition peinture, puisque j'étais à Londres lors de l'exposition du Tate Modern sur Rothko il y a quelques années. Et arrivant sans surprise après l'exposition et assez bouleversée, je dois l'avouer, à l'endroit de la boutique et de la librairie, je vois sur une étagère une succession, mais presque sérielle, de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Il y avait environ 40 exemplaires de la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, donc traduit en anglais, quelques monographies sur Rothko, mais surtout Merleau-Ponty partout. Et relégué dans un coin, les écrits de Rothko, dans une petite édition. À l'époque, je crois même pas qu'il n'y avait pas encore l'édition française, donc j'ai acheté l'édition en anglais. J'ai longtemps travaillé d'ailleurs à partir de cette édition anglaise. Et donc voilà, contraste entre l'omniprésence de Merleau-Ponty pour parler de Rothko et le peu de présence de Rothko pour parler de ses œuvres. Et j'avais ressenti un certain malaise à l'époque sans trop l'analyser, puis je l'avais laissé dans un coin de ma mémoire. Et puis, malaise s'est reproduit peut-être quelques années après, lorsque lors d'une conférence d'un philosophe, d'un phénoménologue bien connu, où il était question de Rothko, j'avais été saisie par le fait que, à l'époque, j'avais déjà lu les écrits de Rothko en anglais. Il n'était pas question, pour parler de ce qui se produisait lorsque l'on regarde une toile de Rothko, à aucun moment il n'était question de ce que Rothko disait sur ses propres toiles, sauf à un moment où le philosophe en question dit, d'ailleurs c'est très saisissant, si vous lisez ce que Rothko écrit sur sa peinture, c'est très décevant. Puisque ce que Rothko écrit, il nous parle de psychologie, il nous parle d'émotions, il nous parle de drames personnels, tout cela c'est du psychologisme, mais en fait quelque part le vrai Rothko ne serait pas là. Et donc deuxième malaise, également laissé en un coin de ma mémoire. Je suis à la base plutôt spécialisée dans le champ de la philosophie de la musique, et c'est à partir de là en fait que l'envie d'écrire sur Rothko s'est a pris forme, puisque j'ai rencontré un autre Rothko en lisant un compositeur, en lisant Morton Feldman. J'avais une affinité particulière avec ce compositeur, j'écoutais énormément sa musique, je me suis procuré ses écrits et paroles, hein, c'est un ouvrage qui a été publié par Jean-Yves Bosseur à l'Harmattan, où il a fait un gros travail de traduction sur les transcriptions de différents entretiens de Morton Feldman. Et j'avais été frappée à la première lecture du fait que Morton Feldman, compositeur, dans cet ouvrage, parle fort peu des autres compositeurs. Il parle beaucoup de compositions, mais il parle fort peu des autres compositeurs, des compositeurs qui lui sont contemporains. En revanche, il parle sans cesse de peinture et il parle sans cesse des peintres qui lui sont contemporains. Philip Guston, Rauschenberg, mais en premier chef, Rothko. Et ce que je lisais de Morton Feldman, donc de ce compositeur minimaliste américain contemporain du peintre en question sur Rothko, me semblait peut-être mille fois plus pertinent que ce que j'avais pu en entendre du point de vue de la philosophie. Et je me suis demandé dès lors qu'est-ce qui se jouait ici, au-delà de la simple analyse de ce que cela m'apportait pour penser Rothko, qu'est-ce qui se jouait ici dans cette correspondance des arts, dans ce qu'un art peut penser d'un autre art, de ce qu'un artiste qui est ici compositeur peut penser de l'activité du peintre et de la manière dont ces pensées s'influencent, dont elles procèdent l'une à partir de l'autre. Et c'est peut-être de là qu'est née l'ambition de cet article. Alors, très simplement, et sans prendre trop de temps, quel était l'enjeu ici? Pourquoi je suis repartie de la question un peu classique du paragone, à la fois d'une rivalité, d'une comparaison, mais également d'une correspondance ou d'une complémentarité entre les arts, en me défiant, comme l'a bien dit Daniel Cohn, de la question de la ressemblance. C'est toujours tentant, la ressemblance, quand on part d'un art à l'autre, surtout musique-peinture. Cette ressemblance, dans le cas qui m'intéressait, elle était d'autant plus tentante et séduisante que certaines œuvres du compositeur en question, Morton Feldman, portent très spécifiquement sur des toiles de Rothko et notamment sur une chapelle où se trouvent des toiles de Rothko qui est fort connue, que je vous ai mis ici, qui s'appelle Rothko Chapel, la chapelle Rothko à Houston, au Texas, et qu'on renvoie très souvent la relation entre ces deux artistes à cette œuvre qui est presque, si vous voulez, l'exemple canonique de ce qui pourrait être une relation très forte entre musique et peinture au XXe siècle. Et plutôt que de filer cette ressemblance, cette espèce d'harmonie totale entre la composition musicale et la proposition picturale, j'ai essayé de travailler de manière plus négative, en essayant de sortir de ce que cela avait de séduisant, et en interrogeant la relation musique-peinture à partir des différences des arts et non de leur similarité. Pour penser cette relation selon la similarité ou la ressemblance, on prend souvent un terme commun qui est le timbre. C'est un petit peu l'exemple qu'on reprend quand on parle des relations de Kandinsky à Schoenberg. Entre couleur, entre peinture et musique, il y aurait cette question du timbre comme couleur. C'est en se défiant de ce type d'analogie que j'ai essayé de procéder. Et je suis partie résolument d'une différence de moyens. D'un côté, l'espace, de l'autre, le temps, pour voir comment le compositeur, qui, comme le dit bien Feldman, procède à partir du temps, c'est à partir du temps que nous fonctionnons, dit-il, peut s'inspirer d'un art de l'espace pour penser, pour évoluer dans une situation de crise de la composition, de crise de la temporalité musicale. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici, à la fois en montrant comment cette présence insistante de la peinture dans les écrits d'un compositeur contemporain était le signe que ce que fait ici, ce que l'on peut faire, c'est de faire référence à un autre art, non pas pour appliquer simplement un certain nombre de contextes, mais parce que cela nous permet de penser quelque chose. Il y a une formule de Feldman que j'aime beaucoup. Il dit que ce n'était pas une influence, les écrits, même pas les écrits, mais la fréquentation, puisqu'il l'a fréquenté de Mark Rothko, ce n'était pas une influence, c'était une permission, au sens où réellement ce qu'un autre art lui permettait de penser. Alors je ne rentrerai peut-être pas ici dans le détail de ces modifications. Elles ont trait à des concepts qui circulent entre peinture et musique de part et d'autre de la distinction temporalité et spatialité, des concepts comme toile de temps, comme stase, comme durée, comme plasticité, plasticité tactile, autant de concepts que sur lesquels Morton Feldman travaille à partir de la peinture, sans renoncer pour autant à des distinctions qu'il pose comme fondamentales. On ne prétend pas penser la musique comme la peinture, mais de voir ce que l'activité picturale, en tant que compositeur, nous permet de penser sur notre propre matériau dès lors qu'on a compris qu'il était en crise. Donc c'est là ce que j'essayais de produire. Donc au plus près peut-être des écrits du compositeur en question et aussi des écrits de Mark Rothko, ce qui donne aussi peut-être à ce texte un côté un petit peu, j'espère pas trop englué dans les écrits de ces artistes, mais je crois qu'en même temps qu'il y a là quelque chose peut-être de nécessaire et peut-être, je l'espère, de salutaire pour l'esthétique, éviter cette position de surplomb où on pose Merleau-Ponty sur l'étagère de l'exposition Rothko, en se disant que ce que Rothko a à nous dire est peut-être anecdotique, non pas que la parole de l'artiste soit nécessairement parole d'évangile sur sa propre production, mais partons tout de même du principe qu'il s'agit d'abord de la lire, de la comprendre, en partant peut-être aussi de ce principe que les œuvres pensent et qu'elles ont quelque chose à nous dire.
Merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation. Je croyais que vous nous faisiez écouter un peu de musique et de...
C'est toujours très difficile à amener, mais...
Ça me paraît important.
Alors, justement, j'ai proposé, j'ai apporté deux exemples. Donc, le premier, c'est sur Rothko-Chapelle. Ce que j'ai essayé de montrer par rapport à Rothko-Chapelle, donc, Morton Feldman compose Rothko-Chapelle à peu près au moment hein, où en hommage aussi à Mark Rothko, donc il s'est suicidé juste après avoir terminé la conception de ce lieu. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une résonance formelle qui semble très forte, une ressemblance entre ce qui est proposé aussi bien sur le plan architectural que pictural, puisque Rothko-Chapelle, c'est aussi une œuvre d'architecture, et la musique. Alors, j'aurais pas ici le temps de filer l'analyse musicologique, c'est ce que j'essaie de montrer aussi à partir d'écrits de musicologues dans ce numéro. Mais en même temps, ce qui est toujours un petit peu compliqué, c'est que, vous allez le voir, quand on regarde une image de la chapelle Rothko avec en fond sonore la musique de Morton Feldman, bien entendu, la ressemblance est évidente. En même temps, je ne pense qu'elle est précisément produite par une relation amicale que Rothko et Feldman ont pu entretenir, par une communauté spirituelle également, puisque c'est peut-être une œuvre qui, dans le parcours de Morton Feldman, a une consonance sacrée, puisque dans l'extrait que je vais vous faire écouter, à la viole, il fait jouer une mélodie juive qu'il avait composée dans son enfance dans le cadre du culte. Donc, ce premier extrait filera plutôt l'aspect de ressemblance. Et c'est peut-être aussi de cette ressemblance qu'il faut se garder si on veut analyser la complémentarité et les apports mutuels d'un art à l'autre. Mais en tout cas, je mets ce moment-là, donc qui est le cinquième mouvement de Rothko-Chapelle de Morton Feldman. Simplement pour éclairer cela, disons que derrière l'espèce de... Peut-être de, toujours compliqué de parler après... espèce d'harmonie qui se donne à entendre et à voir ici. Ce qui peut paraître en même temps compliqué, c'est que cette composition n'est peut-être pas très représentative de la musique de Morton Feldman en général, alors même qu'on retient très souvent cette pièce. Morton Feldman fait des pièces souvent peut-être plus pointillistes, moins aussi ouvertement tonale, et aussi nous sommes face à des œuvres de Rothko qui sont les œuvres de la toute fin de sa peinture et qui ont fort peu à voir avec les teintes et la chaleur de ces toiles précédentes. Donc il y a un certain nombre de textes qui portent sur ces peintures qui sont exposées dans, dans la chapelle Rothko, mais qui sont beaucoup plus mates, beaucoup plus opaques, et qui pointent aussi, sans faire de psychologisme, on peut quand même dire qu'elles pointent aussi vers la mort prochaine de Rothko, grâce à analyser tout cela très bien. Et du coup, derrière la séduction, il y a aussi une sorte de malentendu. Là où nous sommes séduits par l'harmonie, il y a en fait un compositeur qui fait autre chose que ce qu'il fait généralement, et un Rothko qui est déjà dans une expression picturale différente de ce qu'il avait fait par le passé. Et c'est peut-être à partir de cette séduction qu'il faut contredire que j'ai essayé de fonctionner, en tout cas dans l'article. Donc c'est un point de départ à partir duquel les choses évoluent.